I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une poussée de bouton avant un événement important? Un rendez-vous pro, un date ou un événement que vous attendiez depuis longtemps? Si c'est le cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vinopure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec deux fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections, acide salicylique, niacinamide et polyphénol. De quoi retrouver une peau plus belle et équilibrée au quotidien. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute.
Louis. Avant de le lire dans Les Liaisons dangereuses, d'Orgueil et préjugés ou dans Cyrano, je l'avais lu dans E égale MC2 Mon amour. Les histoires d'amour sont d'abord des fragments et des malentendus. C'était l'histoire de Lorraine King et Daniel Michon, deux collégiens surdoués écrits par Patrick Covin, et chaque chapitre alternait la vie et le point de vue de l'un et de l'autre. Et chaque chapitre permettait de mesurer la distance et la proximité entre la jeune bourgeoise américaine et le petit cinéphile aux mollets musclés. Sur la couverture de mon édition, une bulle de BD émanait des deux personnages, les deux bouches tissaient ainsi leur récit commun. Au milieu du phylactère, un petit cœur rouge. Et je découvrais dans cette comédie romantique pour enfants ce que je comprendrais réellement bien plus tard, la subjectivité d'une histoire d'amour, celle qui implique d'être toujours racontée à plusieurs voix. Cet été d'En Passage, redécouvrez nos épisodes consacrés à des histoires d'amour et n'hésitez pas à vous abonner au flux. On vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles histoires. À très vite. Je n'ai pas vu mes parents vieillir. Je me souviens que quand j'étais enfant, chaque année qu'ils gagnaient devenait une année retirée à ma définition de la vieillesse. Petite, j'avais cru qu'on était vieux à 50 ans, et dès ce seuil atteint par mon père, je m'étais dit la vieillesse, c'est 60. Puis c'est devenu 70, et aujourd'hui, ce ne sera pas avant 80. Leur éviter à tout prix d'entrer dans les rangs de la vieillesse, ça m'évite toutes les inquiétudes qui y sont liées, et me permet de les garder passagers du même monde que le mien, plus proche. La seule chose qui m'ait jamais inquiétée pour eux, finalement, c'est la retraite. Pour mon père, qui adore son travail, je me demande encore ce que signifiera l'oisiveté. Pour ma mère, devenue tellement indépendante au fil du temps, je me demande ce que signifiera de passer autant de temps avec lui. Il me semble qu'après des décennies ensemble, trouver soudain un nouvel équilibre, redécouvrir l'autre dans un nouveau rôle, c'est une révolution. Elle est sans doute aussi grande que le mariage, mais si peu évoquée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, cette transition en forme de révolution, au micro d'Amélie Bonin. Bienvenue dans Passage.
Dans les années 79, je change de travail. Je rentre dans une banque. Et là, je rencontre Daniel, qui travaille déjà là depuis 2 ans à peu près, qui est tout jeune. Il a 6 ans et demi de moins que moi.
Vous êtes à un peu moins de 30 ans. Il y a déjà 2 jeunes enfants. À l'époque, je suis célibataire. Je sors pas mal avec une bande d'amis dans la semaine, mais aussi les week-ends, tout. Hein. Donc, c'est un vrai changement pour moi. Hein.
Daniel vit vraiment une vie de jeune que moi, je n'ai en fait pas vécue, puisque j'ai rencontré le papa de mes fils. J'étais ado, j'étais à peine au lycée. Et je réalise que c'est ça que j'ai envie de vivre maintenant, d'être à nouveau jeune, d'exister personnellement. Je décide de vivre seule avec mes deux enfants. Et puis, se trouve que... Qu'est-ce qui fait qu'on se lie un peu plus tous les deux? Je ne saurais pas dire, il n'y a pas l'étincelle, le coup de foudre, c'est une ambiance, et c'est lui et c'est moi, voilà. Enfin, et puis c'est ce qui va évidemment entraîner ma décision de divorcer. Et puis petit à petit, il vient, il de plus en plus souvent, ça lui permet de... Il rencontre les garçons. Évidemment, ça prend quelques temps, mais lorsque ça s'est résolu, on décide d'habiter ensemble. En 1985, après mes deux garçons, voilà, j'ai une petite fille. J'ai 34 ans, lui, il en a à peine 28. Et donc, la vie de famille commence à ce moment-là. Ça se déroule bien, on travaille au même endroit. Moi, je parle de ma journée, lui va parler de la sienne. On n'est jamais exclu de la vie de l'autre. On partage tout, en fait. On se retrouve promus tous les deux en même temps, au même grade. Chacun dans son métier, évidemment, mais au même grade. Et là, on réalise que l'on a quand même une famille avec trois enfants et que cette première promotion, c'est censé être le chemin vers une évolution professionnelle. Et donc, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on décide ? Et je prends conscience que moi, j'ai bien trois enfants, que Daniel est jeune, qu'il a peut-être plus de potentialité que moi à évoluer. Donc, on prend la décision de dire « tu vis ta vie professionnelle au rythme qu'elle doit être. Et puis, moi, je vis la mienne avec le plaisir de travailler, mais tout en me gardant le temps qui convient à m'occuper des enfants. » Et puis les années passent, très bien, notre couple évolue toujours en union. Mais ce qui me dérange dans cette nouvelle vie, c'est que de plus en plus, Daniel est pris par son travail, et de plus en plus, il rentre tard, et notre vie privée commence à être un peu plus réduite. Mais comme je travaille encore, on va dire, bon, j'ai suffisamment d'occupations pour que ça passe, on va dire ça comme ça.
Ensuite, à Blois, on habite dans une maison en location, et là, je suis amené à remplir des missions qui m'amènent à aller quotidiennement à Tours pour que je puisse prendre des responsabilités différentes. Je ne raisonne pas tant en carrière, c'est plutôt les projets, les choses qui ont mené, participer à la vie l'entreprise, à ses changements, à ses modifications, et en être partie prenante, mais d'une manière très active, c'est-à-dire plutôt pas être suiveur, quoi. C'était plutôt ça l'idée, quoi. Et donc j'ai fait pendant plusieurs mois Tour-Blois tous les jours. Alors, ça allonge quand même assez significativement les journées de travail, indépendamment du risque qu'on prend sur la route, etc. Et puis, c'est très fatigant.
Est-ce que ça ne serait pas mieux d'aller finalement habiter à Tours ? À une condition, que le temps des trajets, c'est-à-dire un peu plus d'une heure à l'aller, un peu plus d'une heure au retour, ce soit des gains de temps de vie familiale. Donc, on loue un appartement qu'il faut entièrement refaire. On s'y attelle tous les deux. C'est à nouveau, finalement, un temps de travail qui s'allonge pour Daniel, mais on a quand même réussi quand même à mener un projet ensemble pour notre vie personnelle. Je pense que ça, c'est le principal.
Alors, sauf que le travail m'accapare de plus en plus. C'est quasiment incontournable. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut faire les choses à moitié. Et donc, j'essaye de les faire le plus correctement possible. Et c'est ce pour quoi on me paye. Donc, je ne peux pas faire autrement, quoi. Ou alors, il faut que je change de boulot, que j'ai moins de responsabilités, ou que je sabote le travail. Et ça, je ne le fais pas. Et je ne sais pas le faire. Mais en fait, l'intérêt que m'apporte ces projets, ces missions, la reconnaissance que ça me donne aussi, font que je me pousse. En fait, pas du tout la question, et je m'épanouis très bien. là-dedans. Et je me rends pas compte que, par ailleurs, à un moment donné, j'ai dit que le temps de transport, c'était quand même du temps perdu et que ça serait du temps pour nous. Et finalement, je le fais pas, quoi.
Petit à petit, le projet se forme d'acheter une maison à la campagne.
Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui nous dit, tiens, il y a cette maison qui est à vendre, on la visite, ça nous convient. Et rapidement, on l'achète. Il y a beaucoup de travaux à réaliser dedans, mais on va dire que le corps principal est en bon état.
En 2012, je suis en retraite. Vendredi 13 janvier 2012. Mais moi, je décide, le soir même, de m'installer dans la maison. J'ai envie de m'isoler, parce que quand on travaille ou quand on vit en couple, on n'a pas vraiment de moment de solitude. Et puis là, j'en ai un grand besoin. Quand je travaille, je suppose que je suis comme tout le monde, et le travail nous suit, on se réveille avec, on s'endort avec. Et là, c'est dès le lendemain matin, ce sentiment-là a disparu. Je crois que c'est ça, vraiment, le plus grand sentiment de liberté qu'on puisse éprouver. Sans avoir peur du vide, au contraire, un vrai sentiment de bien-être comme quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Plus de travail dans la tête. Ça, c'est magique. La seule échéance que j'ai dans ma situation de retraité, c'est celle où Daniel arrêtera lui-même de travailler.
Au moment où je vais être en retraite, pour moi, c'est pas du tout d'actualité. Hein. Bon, comme j'ai 55 ans, donc je sais que j'en ai pour au moins 5 ans, voire dans le pire des cas 7, et donc je me projette pas du tout, hein, parce que je suis toujours dans l'état d'esprit de dire que si 5, 6, 7 ans, parce que c'est pratiquement ça, avant de partir en retraite, je commence à y penser tout le temps, c'est plus possible d'être motivé sur son travail, et comme on n'a pas la main pour partir avant, donc non, j'y pense pas du tout. Donc, je suis très, très, très pris. C'est style 8h, 20h, quand c'est pas 21h. Je comprends que, du coup, comme moi, je suis à peu près jamais là, je me dis, c'est pas plus mal à ce moment-là, c'est ce que je me dis, parce que ça me déculpabilise, en quelque sorte, d'être jamais à notre domicile. Quoi. Donc, si elle n'y est pas non plus, voilà, c'est pas grave que je rentre pas, c'est pas grave que je sois ailleurs, c'est pas grave que je passe du temps au travail. Le travail, c'est très important. En revanche, ce qui est le plus important pour moi, non, ça demeure ma famille. Enfin, la vie en dehors du travail, c'est plus important. Mais quand on passe 12 heures par jour au travail, forcément, ça prend du temps. Et quand Josette m'explique qu'elle n'a pas le temps de se poser, pas le temps de lire un livre et tout, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Et je me dis, comment c'est possible? Elle est quand même mal organisée ou je sais pas quoi.
Je gère, ça paraît très virtuel, mais en fait c'est quelque chose de très concret. Comme j'ai l'esprit comptable, formation comptable, je passe beaucoup de temps à faire mes comptes. Une grande maison comme ça, plus un autre appartement, plus une gestion, plus moi seul qui ai l'œil, qui prévoit, qui doit dire on en est là, il faut faire attention, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. C'est de la gestion purement et simplement. Et c'est un temps plein. C'est là où tu commences à te dire mais comment je faisais quand il y avait les enfants ?
Avec Josette, il se passe pas une journée sans qu'on échange d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Soit pour échanger sur des sujets particuliers, soit tout simplement pour donner des nouvelles, hein. Donc, soit par texto, soit au téléphone. Alors le week-end, moi je suis content qu'on se retrouve, mais pour moi c'est un sas de décompression. C'est-à-dire que le week-end, c'est plutôt rien faire, pas de problème particulier, si possible, éventuellement bon, sortir, voir des amis. Mais de toute façon, j'ai besoin de me reposer parce que je suis assez crevé de ma semaine. Et elle est dans un quotidien ici, plutôt seule, où elle peut cogiter à ce qu'on fera le week-end, les projets qu'on peut avoir. Et comme elle y pense toute la semaine, quand j'arrive, elle souhaite qu'on parle de tout ça. Et moi, parfois, je n'ai pas forcément envie ou... il n'y a pas d'urgence, quoi, et donc ça crée une espèce de déception ou de d'incompréhension, parce que finalement, ma vie ne l'intéresse pas, quoi.
Il ne s'imprègne pas de ma vie à moi. Moi, je suis imprégné, baigné dedans de sa vie à lui, et lui ne s'imprègne pas de ma vie à moi. Nos partages vont être principalement des moments de loisirs ou des voyages ou des choses comme ça. C'est bien, c'est important, mais ça ne fait pas, c'est pas... Une vie n'est pas construite que de loisirs. Je décide d'aller le retrouver quand même de temps en temps, qu'on ne soit pas en vie séparée comme ça, très toutes les semaines, se voir que les week-ends, essayer de mettre des petites touches de rencontres par-ci par-là, selon ce qu'il aura à faire. Ce qui fait que je vis entre deux villes et en fait, je ne suis jamais vraiment au bon endroit au bon moment. Et aussi et surtout, je ne peux pas prévoir absolument que je vais rester ici à un moment donné si quelque chose m'appelle dans l'autre ville ou à faire avec Daniel. C'est moi qui navigue et c'est pas lui, puisque lui, il est occupé. Daniel commence à s'apercevoir que son travail l'ennuie. Il est très pris, mais ça tourne toujours autour des mêmes tâches, de la même nature de travail. Il cherche des opportunités pour changer de métier à travers la banque. Et en 2014, je suis en retraite depuis 2 ans. Il est appelé pour travailler à Paris.
C'est un moment où on se voit peu, hein, les week-ends. Donc le fait d'être à Paris, de revivre ensemble, ça permet de repartager des choses davantage au quotidien, de profiter de Paris, hein, qu'on aime bien, où on peut aller au spectacle, se promener, voir les enfants, petits-enfants. Donc, ça présente beaucoup d'avantages. Donc, on s'installe à Paris, dans l'appartement, pas loin du boulot, on s'entend dans le centre, donc plutôt des bonnes conditions. Donc, on va dire c'est quasi idéal, de mon point de vue, comme projet. Je prends à 56 ans ce nouveau poste à Paris et je voulais du changement. Je m'aperçois que tout ce que je voulais comme changement, je l'ai, mais encore plus. Tout est quasiment nouveau, tout est à créer, tout est à transformer, tout est à inventer. Et en fait, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'à 56 ans, j'ai l'impression de retomber à un premier boulot dans une nouvelle entreprise. Donc, c'est vraiment super enthousiasmant, quoi. Après, je vois, mais très rapidement, que ça va être un truc énorme. Et donc, là, je me dis, oh, ça va être compliqué parce que entre ce que j'ai dit, qu'on allait pouvoir se voir, passer plus de temps ensemble, et le fait que je risque de faire des journées de malade, avec en plus beaucoup de déplacements, là pour le coup, pas entre Orléans et Tours, mais dans la France entière, ça va être un peu compliqué, quoi. Je me dis ça, mais j'y suis déjà dans le job, quand je m'en aperçois. Donc de toute manière, c'est fait, et là, je pressent que ça puisse pas être simple entre Josette et moi, quoi. Que je le dis pas trop, mais progressivement, naturellement, que j'ai pas besoin de le dire pour que matériellement, ça se voit, quoi.
Je me lève le matin en même temps que lui pour partager le petit déjeuner. Et puis, assez vite, le fait d'aller le retrouver pour déjeuner, ça n'est pas possible parce qu'à Paris, la pause repas, c'est plutôt une pause réunion. Et ensuite, on se retrouve seulement le soir, à son retour. mais sur des soirées qui sont très tardives, puisque de plus en plus, il rentre tard, de plus en plus, on dîne tard. Et donc, évidemment, si après avoir dîné en discutant un peu, on décide de regarder la télé, eh bien, moi, je regarde la télé, il s'endort.
Ça peut paraître bizarre de trouver un boulot super intéressant et très stressant, mais c'est le cas. Je vis des situations par moment très très compliquées. Hein. C'est parfois, vous avez les médias nationaux qui vous expliquent que l'ensemble des distributeurs de billets ne fonctionnent plus dans la banque. Je peux vous dire qu'il faut trouver des solutions pour régler le problème vite fait. C'est moi qui suis en première ligne avec la presse et compagnie. Quoi.
Et là, il dit « ça ne peut pas durer, je ne vais pas pouvoir continuer, je vais arrêter ». Non, mais je me donne un an, comme s'il y avait une échéance qui allait enfin mettre terme à cette situation de qui, pour moi, est une situation de couple qui se désagrège.
Au fond de moi, je pense que je ne l'ai jamais envisagé. Quoi. J'ai pu le dire un peu comme ça pour dire « bon, ok, il faut que j'arrête ça », mais j'ai toujours, je pense... Fondamentalement, je veux toujours faire en sorte que arriver à remplir mes objectifs et à réaliser mes projets comme il faut. Donc voilà, quand je dis ça, c'est finalement un peu ça m'agace, je vais arrêter quoi. C'est un peu ça, mais j'ai jamais envie de faire vraiment.
Il y a toujours une échéance qui se profile et que j'attends, soit des échéances promises, soit arrivé à cette période-là, l'échéance qui va être naturelle de celle de son départ en retraite. Et donc, ça y est, il va rentrer dans mon monde. S'il ne rentre plus dans sa vie familiale pour toutes ces choses du quotidien, eh ben, on n'est plus sur la même route. Sa vie professionnelle à laquelle je participais, à laquelle que je partageais, sur lesquelles on avait des discussions, des choses comme ça, il ne m'y fait plus rentrer dans un premier temps. Et dans un second temps, je n'ai plus le droit d'y rentrer. Il décide sciemment de ne plus parler de sa vie professionnelle. Et quand je lui pose la question, sa réponse c'est « je ne veux pas t'embêter avec ça maintenant que tu ne travailles plus ». Et pour moi, ça sonne faux. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'en discuter. C'est parce que je veux que ça se passe ensemble. C'est parce que, pour moi, c'est ensemble qu'on fait des choses.
J'essaye vraiment de faire au mieux, me semble-t-il. J'ai l'impression que ça ne va jamais. Ce que je fais, à titre perso, c'est-à-dire que même... un petit truc, par exemple, je sais pas, on prévoit une soirée, ou c'est même moi qui la prévois, et donc forcément, on sort plus tôt, sinon on ne peut pas faire la soirée. Et donc pourquoi je peux faire cette soirée-là et que je ne peux pas le faire tous les soirs quoi. Ben, sauf que ce n'est pas possible, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
Cet été-là, je vais essayer de trouver un autre rythme. Je vais revenir dans la maison, et puis... j'irai plutôt le rejoindre les week-ends, où là, il aura du temps libre. Ça me semble être à nouveau un compromis, comme je cherche à chaque fois à changer de braquet quand je sens qu'une situation n'est pas la bonne. J'essaie de créer une nouvelle situation. Et on se retrouve plutôt à Paris, et puis une fois de temps en temps, il revient à la maison quand même, parce qu'il a envie d'y être aussi.
Après avoir passé le week-end, tous les lundis matins, Josette m'emmène au train. On part, je pense, vers 6h30 de la maison pour un train que je prends vers 7h30, ce qui me permet d'être au bureau aux environs de 10h le lundi matin.
Je peine à m'habiller comme ça, tout de suite en sautant du lit. On ne peut pas sauter dans son pantalon. Voilà, j'ai de plus en plus mal au dos, je ne sais pas pourquoi, mais bref, c'est comme ça. Puis sans doute qu'inconsciemment, je sais que dès qu'on met le pied par terre, le week-end est fini.
Un matin, en voiture, en partant, un lundi matin, elle me parle d'horaire, de contraintes d'horaire, et elle me dit que je peux demander à mon assistante modifiée pour un peu plus de souplesse. Je ne sais plus trop de quoi il s'agissait exactement.
Et là, il me dit très violemment, ne te mets pas de ça. Je ne saurais plus trop, je sais plus trouver ces mots. Mais le « ne te mêle pas de ça, ça ne te concerne pas » ou voilà, dans cet esprit-là, autrement dit, ferme-la et c'est pas ton problème. C'est violent donc sur la forme, c'est violent sur le fond, parce que de toute notre vie, jamais de discuter de nos obligations respectives n'avait été considéré comme ne regardant pas l'autre. Bien au contraire. Et c'est vraiment une exclusion totale.
Tout ça, ça s'intègre dans toute une organisation qu'elle ne connaît pas, quoi. Moi, je sais que si j'arrive à plus de 10 heures et que je fais pas ces rendez-vous-là le matin, bah ensuite, c'est mort parce que les informations qu'il y a pendant ces rendez-vous, j'en ai besoin pour le lundi après-midi, quoi. Alors, ça m'énerve parce que... Enfin, ça arrive comme ça, quoi, comme si c'était simple. Naturellement que... Enfin, moi, ça m'amuse pas forcément de me lever à 6h30 et de faire lever Josette à 6h30 pour prendre deux trains. Donc, j'essaye de faire au mieux. C'est comme si j'avais pas réfléchi à la situation et comme si les choses étaient... voilà, bah, tu fais de changer et puis ça ira.
Je ne peux pas imaginer deux secondes que lorsque l'on pense quelque chose et que l'on en parle, que l'on échange, on ne l'échange pas avec passion. Moi, j'estime avoir le droit de dire que ce que je vis, c'est difficile. Mais non, chez lui, il a droit au calme. Il a le droit de ne pas parler de tout ça. Mais j'existe plus dans ces cas-là. J'existe déjà plus beaucoup, mais là, j'existe plus du tout en tant que personne. Est-ce qu'une femme qui réagit est une femme qui a mauvais caractère ? Je me suis toujours posé la question, mais je l'ai toujours senti comme telle. Et donc, Daniel, lui, c'est plutôt les discussions où on n'élève pas la voix. Où un mot dit un peu trop fort serait une agression. Où un mot dit un peu trop fort est une agression. Et bien, jusqu'au jour où il me dit « J'ai décidé qu'on arrête. » Je crois que c'est ces mots.
Je crois que c'est un soir, chez nous, dans notre appartement à Paris. Je rentre, je crois qu'on est en train de dîner. J'avoue plus me souvenir précisément du sujet abordé. Je pars en vrille en disant « Non mais c'est bon, c'est plus possible, on arrête tout, je ne veux plus continuer comme ça. Terminé, voilà. »
Je le revois, mais... sans situer le décor. Je suis persuadée que c'est dans la cuisine de la maison, mais je n'arrive pas vraiment à situer le décor. Est-ce que c'est vraiment là ? Je ne pourrais même pas l'affirmer. C'est en juin 2017. J'oserais presque dire le 6 juin. Il est à pratiquement un an de partir à la retraite.
À ce moment-là, moi, j'ai envie d'être libre. J'ai l'impression d'être beaucoup sous contrainte au bureau. J'ai aussi l'impression d'être sous contrainte quand je rentre à la maison. Donc ça, c'est pas possible pour moi. Je pense pas qu'on en ait formellement parlé, mais j'ai le sentiment qu'elle ne s'y attend pas.
Est-ce que je tombe des nues ? Pas vraiment, mais c'est ça tombe quand même de nulle part. Ça tombe d'autant plus de nulle part que là, on est à un an de l'échéance... définitive qui devrait être celle qui va résoudre tout, à un an. J'ai pas de raison de réagir mal. Au fond, tout est expliqué. Moi, j'utilise jamais le mot échec parce que je vois pas en quoi un revirement de situation est un échec. Et c'est le terme de plus de 30 ans de partage. Et puis, c'est le fait que ma vie va se dérouler seule, ce qui ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Je suis plongée brutalement dans ce que signifie la vie seule. Un matin, je me réveille très tôt. Je suis assise sur le banc devant la fenêtre de la cuisine et je ne peux pas m'en décoller et je n'arrête pas de pleurer. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ça va être ma vie toute seule dans cette maison alors que j'y ai vécu seule? Mais là, le mot « seul » n'a plus le même sens. Ça va être le véritable isolement. C'est-à-dire, on n'a plus à attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit qui vienne te retrouver. Là, pour moi, c'est l'écroulement total. Alors que j'ai accepté la décision, alors que j'ai bien réfléchi à, franchement, vraiment, à ma part de responsabilité, mais c'est dans cette maison, là, là, précisément, je me demande ce que je fais là. Et puis donc, j'appelle Daniel.
Elle m'appelle pour me dire ça va pas, j'ai la grippe. Donc moi, je lui dis, t'as vu le médecin, enfin, je sais pas trop quoi. Mais surtout, elle est, enfin, la morale à moins 15. Donc, au bout d'un moment, je réalise qu'elle m'appelle au secours. Et donc, je dois aller à Nantes, j'y vais pas, je laisse mes trucs de boulot, je viens ici plusieurs jours, je fais quelques trucs ici à distance. Bref, elle est totalement effondrée, elle pleure tout le temps, presque tout le monde, personne ne sait qu'elle existe, personne ne s'occupe d'elle, et c'est vrai qu'elle est pas bien du tout, du tout. Bon, on peut même pas aller faire ses courses toute seule, tout, enfin, c'est pas possible. Je m'occupe d'elle plusieurs jours, je repars, ça va un peu mieux, la grippe d'abord a commencé à perdre de son effet, mais je suis comme très inquiet, hein, pour le coup, parce que... je me rends compte qu'elle est au fond du trou, quoi. Je lui envoie un texto tous les matins pour savoir si ça va. Parce que elle me dit, du coup, c'est la seule façon que finalement on sache si je suis encore vivante. C'est pas les mots, mais c'est un peu l'idée. Je fais ça pendant un certain temps, j'avoue que, mais bon. Et puis, un jour, on se prend la tête, je me souviens plus pourquoi, et du coup, elle me dit, bon, de toute façon, c'est plus la peine de faire ça, tu le fais aussi, parce que je t'ai demandé de le faire, mais tu t'en fous de moi, enfin bon, c'est à peu près ça.
Ce petit SMS du matin, « Bonjour, comment ça va? Est-ce que t'as bien dormi ?» etc., s'arrête. Est-ce que c'est lui qui continue à le faire? Et moi qui lui ai dit, mais ça n'a pas de sens. Ou lui qui d'un seul coup les a arrêtés. Qu'est-ce qui se passe si personne n'est au courant de mes allées et venues? Je ne rentre pas à la maison, je ne rentre plus à la maison, je tombe, il m'arrive quoi que ce soit. Et personne ne saura. Personne ne s'en souciera. D'un seul coup, t'es plus assez intéressante pour partager la vie de quelqu'un. T'es même carrément chiante. T'as plus de raison d'être assez présente comme mère pour que les contacts soient assez suffisamment réguliers. Et puis, tu vas pas demander ça à des amis. T'es réduite à pas grand-chose. Et je pense que là, tu perds la totale confiance en toi.
Je suis quand même assez préoccupé. Je reste en vigilance quand même, parce que je vois pas d'issue et d'appui qu'elle puisse avoir, à part moi, à ce moment-là.
Faut que je parte. Faut que je parte de la maison. Je ne peux pas vivre ici. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je peux aller à un seul endroit où j'ai un lien amical. C'est Tours. Très très vite, je vais partir à Tours. Je vais chercher un appartement. Parce que d'un seul coup, il m'apparaît évident que c'est par le biais de l'amitié que je vais pouvoir m'en sortir. Et c'est le seul moyen de ne pas être seule. Par contre, la confiance en soi, je pense qu'elle est définitivement perdue. Un moment où t'as pas envie d'être seule, en fait, quand t'as pas confiance en soi, t'oses pas le dire, t'oses pas forcément appeler en disant. Et un jour, quand même, dans cette vie, dans cette nouvelle vie à Tours, je prends mon téléphone, j'envoie un SMS à une de mes amies en lui disant, ben écoute, je sais pas si ça te tente, mais ce soir, si jamais t'avais envie de dîner, qu'on dîne ensemble, ben je prépare un petit truc et puis tu viens. Jamais de la vie j'aurais fait ça avant. Et immédiatement, je reçois un message de réponse en disant, mais c'est une super idée, Josette. Mais surtout très simple. Oui, mais passer une soirée toutes les deux, moi, ça me va très, très bien. J'ai eu dans ma vie d'autres raisons d'être fière de moi. Ça peut paraître dérisoire, mais cette décision-là, c'est une fierté dont je ne me prive pas. Parce que jamais de ma vie, j'aurais appelé au secours avant.
Alors à ce moment-là, il me reste un peu plus d'un an à travailler. Je me dis, de toute façon, je ne vais pas passer le restant de ma vie à travailler. Il faut qu'on voit comment on peut récupérer un peu d'argent pour payer finalement un appartement en plus. Donc je cherche un appartement un peu moins cher à Paris, où je déménage. Ensuite, mon quotidien, c'est comme avant. C'est-à-dire que je travaille, je rentre le soir, je dîne, je fais des courses si j'ai besoin de faire les courses... Ce qui change, finalement, c'est les week-ends, parce que les week-ends, je suis seul. Ça ne me pèse pas. J'ai l'impression d'avoir tellement besoin de décompression que, au moins les premiers mois, j'y trouve un bienfait, quoi. Et puis, je ne suis quand même pas toujours tout seul. Des fois, je redescends. On se voit, d'ailleurs, parfois avec Josette. Parfois, je vous vois, vous. Je me balade dans Paris. Je me dis que c'est peut-être une vie qui est un peu réduite et qui, ultérieurement, me conviendrait pas trop, plutôt dans les mois à venir. Mais je me dis, de toute façon, le jour où je travaille plus, je verrai bien ce que je ferai, comment je le ferai, où je le ferai. J'acquiers quand même la conviction que je ne resterai pas à Paris, mais que j'irai à Tours. Je me suis dit, on va être tous les deux à Tours, on verra bien. Enfin, ça, voilà.
Un jour où je suis dans son appartement, parce que je vais à Paris voir les enfants. On déjeune tranquillement chez lui. Une discussion s'engage. Peut-être que je ressasse encore ce qui nous a séparés ou ce qui nous a perturbés ou ce qui a mis le bazar dans nos vies. Peut-être que j'essaye de lui faire dire encore une fois que j'ai pris ma part, qu'il a une part dans notre séparation. Sûrement que c'est ça. Sûrement que c'est une discussion de cette nature. Ça dégénère. Et au lieu de continuer à discuter, j'ai un train à 17h. Il est midi. J'ai une côte de veau dans mon assiette. Je me lève, je prends ma valise et je m'en vais. Je vais à Austerlitz. Et jusqu'à 17h, je lis un bouquin. Je n'ai plus essayé d'argumenter cette fois-ci. Je décide que j'ai le droit de partir ce jour-là et à mon tour de lui dire « basta ».
Elle me met souvent le nez dans ma façon d'être, ma façon d'agir. Voilà. Et des fois, globalement, ça m'excède. Des fois, c'est justifié. Des fois, ça l'est moins, mais même quand ça l'est, je l'admets à peu près jamais, à chaud. Je voudrais qu'on n'en parle plus, quoi, que ça soit, voilà, c'est comme ça, quoi, c'est réglé, ou c'est le passé, ou on fait un peu avec, et ça ne veut pas dire que tout est bien et qu'on ne doit rien se dire, mais j'ai l'impression que c'est parfois trop tout le temps. Dès qu'il y a une circonstance, elle a... refait référence à tel truc, C'est pour ça dire que certains, je m'en rappelle très bien. Je suis pas sûr que moi, je m'en rappellerais si on m'en avait pas reparlé X fois. Il y en a sûrement, mais pas tout. Ce qui, pour moi, peut relever de l'anecdote ou du quotidien ou n'importe quoi, pour Josette, c'est super important, c'est... y compris les mots utilisés, pour moi, ça ne l'est pas trop. Alors, naturellement, on me dit... ouais, mais pour toi, ça l'est pas trop, parce que c'est toi qui le dis, mais... Ouais, moi, je me dis, c'est pas si important. Je pense qu'elle... Il faut qu'elle dise les choses. que ça purge ou je sais pas quoi. Et moi, comme je les range, parler de tout ça pour le purger et tout, ça me demande des efforts, mais je sais pas d'où faut sortir tout ça, quoi. C'est pour moi quasiment impossible. Et c'est, je pense, deux façons d'être quasiment opposées. Mais ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est pas une volonté, c'est que c'est... Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est un peu comme ça, quoi. Je savais pas faire autrement.
Comme toujours, nos relations, malgré un orage, continuent. Et un jour, on est invité par des amis communs à la foire au vin, où nous allons régulièrement chaque année avec Daniel. Et donc, bien sûr que j'y vais. Pour nous, ça nous a semblé naturel, hein, rien d'anormal. On assiste tous les deux, on partage avec des amis venus du Nord, ses amis de Tours, nous, tout ça mélangé, et un grand repas. Et on est censé ne plus être ensemble, mais on partage avec le même bonheur, cette manifestation qu'on partageait chaque année avant. Ça suscite chez nous très rapidement une discussion à la fin de la journée. Chacun dit sincèrement, je pense que je n'aurais pas profité de la journée de la même façon si j'avais été seule, en fait. Le fait d'avoir partagé tous les deux ce grand repas avec nos amis, cette journée festive, pour moi, je lui ai dit, il y avait un plus que d'être ensemble. Daniel me répond, j'éprouve la même chose.
Précédemment, on échange beaucoup aussi sur qu'est-ce qui a fait cette situation de rupture. J'ai l'impression qu'il y a de la compréhension dans ce qui m'amène à prendre cette décision de rupture, une espèce de calme, de tranquillité que je ne connaissais plus. Elle est installée à Tours... Elle commence à avoir un réseau de relations, donc elle est plutôt mieux dans ses baskets, quoi. Ça me donne envie qu'on rediscute, qu'on se retrouve un peu, voilà. Je me livre pas facilement de ce qui me touche profondément, ça c'est sûr. Il faut des fois aller un peu le chercher. Là, je m'aperçois que je l'aime finalement encore, et je pense que si c'est partagé, ça serait vraiment trop con de pas essayer de continuer la route ensemble. Je pense qu'on peut avoir des projets ensemble, je pense qu'on peut faire des choses, je pense qu'on partage finalement beaucoup de points en commun et que si on est tous les deux apaisés, ça doit nous permettre de passer encore un bout de temps ensemble.
Et voilà, maintenant, on vit tous les deux. Il est effectivement en retraite. On vit nos vies de retraités avec le plaisir de partager des loisirs ensemble. Mais chacun se garde ses amitiés personnelles et chacun se garde le droit de se dire ce qu'il a envie de dire, même si ça engendre des disputes, des discussions, des levées de boucliers de ma part... Et de la part de Daniel, mais j'ai quand même le droit maintenant de dire ce que je pense. Puis voilà. Mais moi, je continuerai à me battre dans la discussion, dans l'échange. Oser se regarder, oser se dire les choses, oser les admettre, oser dire qu'on admet. Pour moi, c'est ça un vrai échange.
Récemment, je ne sais pas si on peut dire que ce sont des excuses, mais en tout cas... Je lui ai dit que je regrette un certain nombre de façons de faire ou de dire que j'ai pu avoir certains comportements liés à des situations que je n'avais pas comprises la concernant. Quand elle travaillait pas, des choses qu'elle me dit, des choses comme ça, quoi. Elle m'a demandé si j'étais vraiment sincère. Je pense qu'elle l'a tellement attendu, même tellement réclamé, sans que je le fasse, que je lui, un jour, elle se demande si je suis sincère. Et je le suis.
Ça m'a apaisé. Ça m'a enlevé comme une épine. c'est sûr. Pas tout, mais celle-là, au moins, elle est partie. Imaginez de vivre seul. Ça nous effleure l'esprit, je pense, chacun. Mais finalement, on est bien mieux à deux. Parce qu'on a plein, plein de choses à partager, en fait. Même les engueulades. Ce qui me plaît chez Daniel et qui m'a toujours plu, c'est son écoute. Il ne se livre pas facilement, mais n'a jamais rechigné, a toujours accepté que je puisse, moi, me délivrer d'un malaise, d'une mélancolie, de quelque chose de profond ou de plus superficiel. Et puis une petite chose très anecdotique que j'aime beaucoup chez lui, c'est l'intérêt à l'actualité. Il lit beaucoup de magazines, de journaux, il écoute, et comme ça, le soir, on se fait une petite revue de presse. Et c'est un moment de partage et puis de discussion.
Ce que j'aime bien chez Josette, c'est ses idées, sa vision de la vie, sa façon de voir les choses, et puis son élégance aussi, toujours bien habillé, toujours bien arrangé, pour me plaire, je pense. Vraiment, j'adore ça. Puis depuis tout ce temps, on partage beaucoup de choses et j'adore aussi quand elle vient mettre ses pieds froids sur moi pour que je la réchauffe. Enfin, je l'aime, je l'aime.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Amélie Bonin sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson. Maureen était aussi à l'édition et à la coordination avec Maud Benakcha. Il a été réalisé par Jean Thévenin, qui a également composé la musique. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Marion Girard est responsable de production et Mélissa Bounois, directrice des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et je vous y encourage et nous laisser des commentaires et des étoiles et surtout en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'ai découvert un nouveau podcast dont j'aimerais vous parler. Il s'agit du podcast Les Voix du Crime, produit par RTL. En tant que grande fan de faits divers, j'ai adoré ces enquêtes judiciaires racontées par des avocats, enquêteurs, proches des victimes, suspects et même coupables. Bref, si vous cherchez un bon podcast d'affaires, écoutez Les Voix du Crime. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.